J'étais navrée d'apprendre qu'hier, quelques-uns d'entre vous ont eu froid hier soir. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez vous réchauffer. En tout cas, si vous le désirez, vous pouvez faire entre midi et une heure la promenade là, autour de la maison. Il y a le petit cimetière des Sœurs Grises là-haut. Et le temps est vraiment magnifique. Le Seigneur nous comble avec la température pour un mois de décembre. Et vous pouvez voir les bateaux aussi qui naviguent, là, qui remontent le Saint-Laurent. C'est vraiment merveilleux. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour toutes choses. Ô Dieu, notre Père, nos cœurs sont vraiment dans la reconnaissance parce que tu es bon. Tu es miséricordieux. Oui, nous sommes les enfants d'un bon Père. Et nous voudrions être en retour de bons enfants pour toi. Et la meilleure manière de l'être, c'est de ressembler à ton unique, à ton Fils bien-aimé. Et tu as tout fait pour que nous puissions être à son image et à sa ressemblance. Non pas quand nous aurons des corps glorieux et que tout sera accompli dans l'éternité, mais déjà maintenant, que le monde puisse voir qu'une œuvre de transformation s'opère en nous, par la toute-puissance du Saint-Esprit, qui est une personne vivante en nous, qu'elle nous instruise aujourd'hui, que ce soit vraiment l'Esprit du Père, de notre Père des cieux, et qui nous parle, et qui nous donne cette intelligence de comprendre les mots de ta parole. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, captive nos pensées, et bénis-nous de ta bénédiction en Jésus. Amen. Alors, mes bien-aimés, je pense qu'en relisant ce chapitre premier de cet épître de Pierre, vous vous êtes souvenu d'une parole que Jésus avait dite à cet apôtre, en lui annonçant qu'il allait avoir une chute, qu'il allait le renier. Jésus lui dit, j'ai prié pour toi. Et je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Jésus qui sait tout de notre vie, tous des manquements que nous pouvons encore avoir, il nous dit, comme il l'a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Est-ce que vous êtes sûr de cela? Vous demandez souvent à des amis de prier pour vous, c'est bien, et je suis sûr qu'ils vont le faire, et nous prions les uns pour les autres. Mais de savoir que Jésus, lui, il a prié pour nous, et c'est dit à plusieurs reprises. Hein. Quand il est à Gethsémané, et qu'il adresse à son père cette prière, qu'on appelle la prière sacerdotale, il dit, ce n'est pas seulement pour ces apôtres, pour ceux-ci que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors, nous sommes justement de ceux qui ont cru en Jésus par la parole des apôtres, par le témoignage des apôtres. Mais Jésus a dit à Pierre, avant sa chute, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Alors, quand vous pensez, mais moi, il y a encore un long chemin à faire pour arriver au terme de ma course, alors est-ce que je ne m'en vais pas défaillir? Est-ce que ma foi qui est déjà si faible, est-ce qu'elle ne va pas défaillir en chemin? Eh bien, souvenez-vous que le Seigneur dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Alors prenez cela au mot, prenez le Seigneur au mot. Et puis, donc il y a eu la prière de Jésus. Puis une fois que Pierre l'a renié, qu'est-ce que nous avons vu hier soir? Quelle a été l'attitude du Seigneur? Un regard. Il l'a regardé. Oh, vous savez, nous le connaissons, ce regard du Seigneur. Mais quand nous avons manqué, tout à coup, nous voyons le regard du Seigneur. Et il nous regarde avec cette tristesse qui nous fait rentrer en nous-mêmes. Il nous communique sa propre tristesse. Et c'est une tristesse qui est selon Dieu et qui nous amène à la repentance. On ne s'endurcit pas quand on a le regard du Seigneur sur nous. Jésus regarda Pierre. Pas un reproche, pas un mot. dur à l'égard de ce renégat, seulement un regard douloureux, parce que Jésus est peiné pour Pierre, qui va souffrir, parce que quand nous déshonorons le Seigneur, nous souffrons. Et le Seigneur ne voudrait pas que nous souffrions, c'est cela que vous devez comprendre. Nous sommes toujours en train de nous culpabiliser, alors que le Seigneur voudrait nous libérer. Alors il y a eu ce regard. Et puis, la troisième chose, une prière, un regard, puis ensuite, une parole. Pierre, m'aimes-tu? 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 Et voilà que Pierre reçoit, après sa chute et son repentir, il reçoit l'assurance que le Seigneur n'a pas mis de côté et qu'il va justement l'employer. Maintenant qu'il se connaît un peu lui-même. Mais Jésus avait dit encore une chose. Quand tu seras revenu, donc on peut s'écarter, c'est vrai, hein? Et tous, comme nous sommes des brebis, nous avons pu errer loin du sentier du Seigneur. Nous pouvons, quoique sauver, nous écarter du chemin. Mais le Seigneur est le bon berger et il dit qu'il ramène sa brebis. L'égaré, je la ramènerai. Vous allez bénéficier des soins du Seigneur. Et Jésus avait dit à Pierre, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Eh bien, les épîtres de Pierre, on peut dire que c'est ça, hein? Fortifie tes frères. Voilà le résumé que je trouve le plus magistral de ces épîtres de Pierre. Pierre est l'homme qui sent le besoin de fortifier ses frères, ceux qui sont dans l'affliction, ceux qui passent par les épreuves, ceux qui connaissent la souffrance, eh bien, Pierre est là pour les fortifier. Et vous aurez remarqué que l'apôtre Pierre a un autre style que l'apôtre Paul. Nous avons lu les épîtres de Paul, nous les avons étudiés, et nous voyons en Paul l'homme, le serviteur de Dieu, qui expose d'une façon très systématique les vérités profonde des Écritures. Eh bien, Pierre, lui, il a un autre style, mais il nous donne des exhortations, un peu ici, un peu là, mais qui correspondent aux besoins des saints, aux besoins de ceux qui sont dans la peine. Il ne fait pas d'exposé systématique, mais toutes les paroles qu'il nous dit, eh bien, sont là pour nous encourager. Elles nous rejoignent. Ces paroles nous rejoignent dans la vie pratique. Et nous bénissons le Seigneur de nous avoir donné ses ministères. L'apôtre Paul pour nous donner les bases doctrinales. L'apôtre Pierre pour venir à nous dans nos afflictions, dans nos peines. Et ce que vous aurez remarqué, ce que vous remarquerez de plus en plus en lisant les épîtres de Pierre, c'est que, au fond, les pensées qu'il exprime, ce sont les pensées de qui aussi? De l'apôtre Paul. Il a un langage et qui rejoint vraiment ce que l'apôtre Paul a dit à ceux qu'il a enseignés. Mais Pierre le dit d'une autre manière. Mais il n'y a pas contradiction entre Pierre et Paul, comme il n'y a pas de contradiction entre Jacques et Paul. C'est une autre manière de dire les choses. Mais nous sommes donc maintenant à pied d'œuvre et nous allons voir ce premier chapitre ensemble. Hier soir, nous avons survolé un peu la vie de l'auteur qui est Simon, le fils de Jonas, qui serait appelé Pierre. Et dans cet épître, eh bien, il commence par sa signature Pierre. Et il nous dit ce qu'il est. Apôtre de Jésus-Christ. Non pas parce que lui a choisi d'être apôtre, mais nous avons dans les évangiles le moment où le Seigneur lui-même, après une nuit de prière, a fait venir ses disciples et il en a choisi 12. Et il est dit que Pierre est nommé le premier. Le premier Pierre. Que certaines églises aient voulu donner la primauté à Pierre en se basant sur ce verset, c'est égal pour nous. Ce que nous savons, c'est que quand même Pierre a une place tout à fait spéciale. Peut-être justement parce qu'il est tombé bien bas Le Seigneur lui a donné une vocation tout à fait particulière. C'est lui qui a été choisi par Dieu pour ouvrir le royaume des cieux, le royaume de Dieu, aux Juifs le jour de la Pentecôte, puis comme nous l'avons vu pour la descente du Saint-Esprit sur les Samaritains, que Philippe avait évangélisé, et ensuite pour apporter l'évangile aux païens, chez Corneille, comme nous voyons au chapitre 10 des Actes. Mais dire que Pierre a lui seul le pouvoir de lier et de délier, ce n'est pas vrai. Il a ce pouvoir, c'est vrai, mais il partage ce pouvoir avec l'Église. Dans le chapitre 18 de Matthieu, nous voyons que c'est l'Église tout entière qui a le pouvoir de lier et de délier, et non pas seulement l'apôtre Pierre. C'est pour cela qu'il ne faut jamais isoler un verset de son contexte et même du livre dans lequel il a été donné. Alors, je dirai tout de suite ce que Pierre n'est pas, puis on verra aussi ce que Pierre est. Parce que je crois qu'il faut être bien éclairé là-dessus. Ce que Pierre n'est pas, et nous le verrons spécialement cet après-midi, il n'est pas la pierre angulaire. L'apôtre Pierre, il est apôtre, on peut même l'appeler le premier des apôtres si vous voulez, mais il n'est pas la pierre angulaire sur laquelle reposerait l'édifice. Qui est la pierre? C'est Jésus-Christ. On le verra cet après-midi, n'est-ce pas? Mais ça n'enlève pas que Pierre est une pierre sur la pierre, comme les apôtres. Et nous-mêmes aussi, comme nous le verrons, nous sommes des pierres vivantes sur la pierre vivante. Alors, il n'est pas la pierre angulaire et il n'est pas le chef de l'Église. Qui est le chef de l'Église? C'est Jésus-Christ. Ça, c'est bien établi. Et il n'est pas le premier pape. Vous savez que je ne suis pas un homme qui démolit les autres. Mais justement, parce que je veux être vrai, bien souvent, je vous dis des choses qui peut-être vous heurtent, parce que je souligne des vérités qui sont encore dans l'Église romaine. C'est vrai. Parce que je crois que nous devons avoir entièrement dépouillé le mensonge et parler la vérité à son prochain. Et quand on trouve une vérité, on la souligne. Hein, et on se réjouit qu'il y ait au moins cette vérité. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il n'est pas le premier pape ni le fondateur de l'Église de Rome. Et là, nous en avons des preuves. Et quand je fais des allusions de ce genre, j'ai bien pris soin, bien sûr, de me documenter. Et pour vous donner une certitude que même dans l'Église romaine, depuis Vatican II en particulier, dans aujourd'hui la Bible, nous lisons ceci. On ne sait à peu près rien du séjour de l'apôtre Pierre à Rome. Il y arriva sans doute après Paul. Donc, s'il y est arrivé après Paul, et que les catholiques eux-mêmes le reconnaissent, et ce sont des grands théologiens là, hein, eh bien, ça vous rassure. Mais beaucoup de catholiques ne connaissent pas leur religion eux-mêmes, ni les pensées profondes de leurs théologiens. Il y arriva sans doute après Paul au début de l'année 61. La tradition qui lui attribue 25 ans d'épiscopat à Rome est aujourd'hui unanimement rejetée comme légendaire. C'est pas moi qui vous le dis. Je vous cite aujourd'hui la Bible. Il est douteux qu'il ait été, même pour un temps très court, le chef de la communauté romaine. Je ne vous cite pas un ouvrage protestant. Le seul fait certain est celui de son martyr. Et ça, nous le croyons aussi. Lors de la persécution de Néron en 64 environ, consécutive à l'incendie de Rome. Voilà, je vous aurai montré le livre. Je ne vous dis pas que c'est le portrait de Pierre, mais enfin, c'est comme cela qu'il est représenté dans l'acte. Voilà. ça n'enlève rien à l'autorité de l'apôtre, hein, qui vient d'être dit là. Nous n'avons pas besoin qu'il soit chef de l'Église ou fondateur de la communauté qui se trouverait à Rome. Parce que l'apôtre Paul, quand il a écrit sa lettre aux Romains, vous vous souvenez, il a écrit à une église qui existait à Rome. Et en quelle année est-ce qu'il écrivait sa lettre aux Romains? En l'année, dans les environs de l'année 56, il écrivait de Corinthe aux Romains, et il a donné une foule de messages et de salutations pour des croyants qui étaient à Rome. Vous pouvez bien penser que si Pierre avait été à Rome, Paul aurait eu la délicatesse de saluer l'apôtre Pierre. D'autant plus que nous apprenons, quand nous lisons les Galates, que Paul, au début de sa conversion, a passé 15 jours dans l'intimité de l'apôtre Pierre. C'est lui-même qui nous dit, Paul, qu'il a passé 15 jours à Jérusalem, chez qui ? Chez Pierre. Donc il connaissait la femme de Pierre aussi, puisque Paul lui-même nous raconte que Pierre, quand il voyageait, quand il faisait ses missions, il laissait sa femme à la maison ? Non, elle voulait bien l'accompagner, alors il prenait sa femme avec lui. Ils voyageaient ensemble. Vous avez cela dans le chapitre 9 de la première épître aux Corinthiens, et c'est Paul qui souligne que Pierre voyageait avec sa femme. C'est très beau quand même, donc ils étaient unis. Alors, voilà, simplement pour donner quelques précisions et vous encourager aussi à rechercher toujours la vérité. Quand vous trouvez une vérité dans l'Église romaine, eh bien, vous n'essayez pas de démolir. Il faut être vrai et se réjouir s'il y a une vérité. Je me souviens toujours de mon père, quand j'étais encore jeune, il disait toujours, heureusement qu'il y a encore l'Église romaine pour maintenir certaines vérités. Parce que dans le protestantisme de ce temps-là, il y avait tellement de rationalisme, de libéralisme, qu'on se demandait où allait le protestantisme. Alors il y avait encore quelques vérités essentielles qui étaient maintenues dans l'Église romaine, comme la divinité essentielle de Jésus-Christ. Alors, mon père se réjouissait au moins de cela, et il aimait à souligner cette vérité. Alors, nous allons maintenant aborder vraiment ce premier chapitre. Donc, c'est Pierre qui est apôtre, parce que apôtre veut dire envoyé, c'est le messager de Jésus-Christ. À qui est-ce qu'il s'adresse ? À ceux qui sont étrangers et dispersés. Ces étrangers et ces gens dispersés étaient essentiellement des Juifs convertis au Christ par la prédication de l'Évangile, mais aussi des païens qui se trouvaient dans ces contrées et d'Asie et qui avaient été amenés à la foi par ces hommes qui avaient dû quitter Jérusalem lors de la persécution d'Étienne et qui étaient allés apporter partout la bonne nouvelle. Ils allaient d'abord apporter la bonne nouvelle à des Juifs parce que dans ce qu'on appelle la diaspora, ceux qui n'habitaient pas en Israël, les Juifs, c'était, on les appelait les gens de la dispersion. Donc c'était des Juifs, mais qui s'étaient convertis au moyen de l'Évangile que Paul en particulier avait annoncé, et d'autres aussi, ceux qui avaient été persécutés lors de ces terribles ravages qui étaient arrivés à Jérusalem au temps d'Étienne. La persécution, loin d'arrêter la propagation de l'Évangile, avait été une semence et avait poussé ces gens à aller plus loin, annoncer la bonne parole. Alors, c'est à ces gens qui étaient étrangers, alors donc, on peut dire étrangers aussi aux alliances, étrangers aux promesses, c'était donc des convertis du paganisme, qui étaient autrefois étrangers, mais maintenant qui étaient devenus des enfants de Dieu. Mais il y avait les deux. Il y avait des Juifs convertis et il y avait aussi des païens. Et ces païens se trouvaient donc avec les Juifs convertis dans les cinq provinces d'Asie, qui sont nommées là le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. C'était cinq provinces romaines, qui étaient donc sous le joug de Rome. Et alors, ces gens qui, selon le monde, étaient des étrangers, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient élus. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Le premier mot qui qualifie ces étrangers, c'est que ce sont des élus. Alors, peu importe que nous soyons considérés comme des étrangers, ce qui compte, c'est que nous soyons des élus. Et alors, ils sont élus. Comment? Élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Puis, il y a le vœu que la grâce et la paix vous soient multipliées. J'ai posé une question, là, dans le petit livret, en vous demandant de citer au moins un verset où vous trouvez un message trinitaire. Vous l'avez trouvé? C'est le verset 2, en particulier. Hein. Qu'est-ce que nous trouvons là au verset 2? Nous trouvons Dieu le Père, hein, la préscience de Dieu le Père, ou la préconnaissance de Dieu le Père. Dieu connaît tout à l'avance. Hein. Dieu connaît tout à l'avance. Alors, ce Dieu qui connaissait tout à l'avance, et Pierre en a fait l'expérience, hein, puisque Jésus lui a dit, tu es Simon, le fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Donc, là, vous voyez que Jésus avait la préscience de Dieu lui-même. Jésus est Dieu. Et comme Dieu a cette connaissance de l'avenir, eh bien, Jésus avait aussi cette connaissance. Alors, il y a la préscience de Dieu, et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? La sanctification de l'Esprit. Et c'est une chose qu'il vous faudra bien, il faudra bien vous en souvenir. Quand on prétend être élu et prédestiné, la preuve qu'on est vraiment prédestiné, on l'a dans la sanctification de l'Esprit. Ceux qui sont vraiment prédestinés le savent parce qu'ils sont mis à part. Ils sont sanctifiés par la puissance du Saint-Esprit. Alors ça, c'est une garantie de votre prédestination. Parce que dire simplement, ben moi, je suis un prédestiné, je peux faire ce que je veux, de toute façon, je suis prédestiné à la vie éternelle. Non, si tu es prédestiné, ça se montre dans le monde par ta sanctification. Vous êtes prédestiné, non pas simplement pour le salut dans l'au-delà, pour qu'après la vie que vous aurez eue sur la terre, vous n'alliez pas en enfer, que vous héritiez du salut et de la vie éternelle, vous êtes prédestiné pour que dans cette vie-ci, vous soyez sanctifié par qui? Par le Saint-Esprit. Alors, on ne parle pas toujours du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est tellement à l'œuvre en nous qu'il nous met à part et qu'il nous fait haïr le péché. Il nous fait haïr le mal. Les élus sont des gens qui haïssent le mal. Il ne dit pas, oh moi je suis élu, je peux me reposer sur mon élection. De toute façon, ça ira. Non, ça n'ira pas. Car si ta certitude de la prédestination n'est pas suivie de cette sanctification du Saint-Esprit, de cette mise à part du Saint-Esprit qui t'éloigne de ce que Dieu est, de ce que Dieu réprouve, eh bien, ta prédestination, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Alors, comprenez-le bien. Nous sommes élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Il y a une œuvre de l'Esprit qui se fait dans les élus. Comprenez-le bien. Et cette œuvre de l'Esprit, elle est agissante, elle est vivante, elle est opérante. Elle ne nous laisse pas en état, elle nous transforme. Et elle nous fait devenir quoi? Obéissant. Vous voyez comme c'est clair. Hein? Elle nous fait devenir obéissant. Quelqu'un qui est élu, c'est quelqu'un qui est aussi obéissant. Tu ne peux pas dire que tu es élu quand tu désobéis. Tu es élu pour l'obéissant. N'est-ce pas? Nous avons lu le texte hier soir en vous saluant où Jésus dit, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il fera? Il gardera ma parole. Donc, si quelqu'un m'aime, il sera obéissant. Il aimera ma parole. Il réalisera que c'est cette parole que nous devons suivre et cette parole, elle fait autorité sur notre cœur. Ce n'est pas les modes du jour qui vont nous conduire, mais c'est l'Écriture, c'est la parole du Seigneur. Alors là, je voudrais vous dire, quand j'étais encore bien jeune, oui, que je suivais avec mon père les réunions, j'avais peut-être 10 ans, et il me prenait déjà dans les études bibliques qui étaient faites par des frères réputés et renommés. Je me souviens toujours d'un frère que j'aimais beaucoup, il était professeur, et il disait, en méditant sur ce chapitre, il disait, pour bien comprendre la prédestination ou l'élection, il ne faut jamais séparer l'élection de la préscience de Dieu, de la préconnaissance de Dieu. Puis moi, je trouvais, mais c'est formidable, alors je commence à comprendre. Alors, il nous disait, ce frère, avec les meilleures intentions du monde, mais il voulait nous donner une explication de la prédestination. Alors, il disait, puisque Dieu sait tout à l'avance, hein, élu selon la préconnaissance de Dieu le Père. Alors, puisqu'il savait, il sait tout à l'avance, il savait qu'un jour nous dirions oui. Alors, c'est à cause de cela, à cause de notre oui, que nous sommes élus. Vous croyez que c'était vrai? Non. C'est une explication simpliste, même s'il était professeur. Parce qu'alors, notre salut dépendrait de nous, de nouveau. Alors, vous voyez, quand on veut donner tout de suite des explications pour vous mettre à l'aise, si vous êtes élu, c'est parce que Dieu savait d'avance qu'un jour, dans une réunion d'évangélisation, vous lèveriez la... J'allais dire la patte. Non, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas ça, parce qu'alors, votre salut dépendrait de votre décision. Et c'est cela qui nous rend tellement heureux, c'est qu'au fond, d'apprendre maintenant, oui, on a pris une décision, mais notre salut ne dépend pas de notre décision. Notre salut dépend d'une décision de qui? De Dieu, qui est souverainement libre, et qui est le Tout-Puissant, et qui peut faire grâce comme il veut. C'est son pouvoir à lui, c'est sa grâce. Alors, relisez le chapitre 3, le chapitre 1er, des Éphésiens, et vous trouverez justement un éclaircissement sur cette prédestination. On était prédestinés dès avant la fondation du monde. Dieu nous avait choisis pour lui. Alors, j'aime à dire, quand on pose certaines questions, la prédestination, c'est un secret de famille, si j'ose vous dire. Là, un petit peu. Essayez de vous faire comprendre. La prédestination, c'est un secret de famille. On apprend qu'on était prédestiné une fois que l'on est sauvé. Une fois qu'on appartient au Seigneur. C'est une fois qu'on appartient au Seigneur, qu'on a répondu à son appel, que nous apprenons que nous étions prédestinés. Que Dieu nous avait choisis. C'est ce que Jésus dit dans le chapitre 15 de Jean. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. C'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi. Alors vous êtes là sur un rocher. Vous êtes sur un rocher. À l'avance, oui, Dieu nous avait arrêté dans son cœur de nous faire grâce. Et cette grâce vous a été annoncée. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez reçue. Et si vous l'avez reçu, la preuve que vous l'avez reçu, c'est que maintenant, vous vous laissez sanctifier par qui ? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous, une personne agissante. Vous êtes mis à part par le Saint-Esprit en vue de devenir sur cette terre des gens obéissants. Les élus, vraiment, ceux qui sont élus, deviennent des gens obéissants. Obéissants. Et étant obéissants, vous participez ainsi à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus-Christ, comme nous allons le voir un peu plus loin, que nous avons été rachetés. Vous n'avez pas été rachetés de votre vaine manière de vivre par de l'argent ou par de l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est par le sang, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, par le sang précieux qui a été versé, nous avons été aspergés, nous avons été purifiés, alors nous sommes mis à part. Et le sang de Jésus-Christ, donc, a expié nos fautes, c'est le prix de notre salut. Quand on dit que le salut est gratuit, il n'a pas été gratuit pour Jésus. Il a payé de sa vie. Le sang, c'est la vie. Il a versé son sang. Mais de ce sang, nous en avons besoin tous les jours, comme le dit l'apôtre Jean, qui rejoint l'apôtre Pierre. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité. Et quand nous repentons et que nous confessons notre péché, Jésus, devant le Père, se trouve être notre avocat et il présente son sang. Il présente son sang et il dit au Père, mais j'ai payé aussi pour ce péché. Et la communion est rétablie. Mais je voudrais que vous soyez bien conscients de ce que nous avons dit au sujet de Pierre. Le Seigneur a prié pour nous, afin que notre foi ne défaille pas. Parce que dans le chemin, nous pouvons avoir des chutes. Que celui qui se croit debout prenne garde qu'il ne tombe. Ça, vous devez toujours veiller. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais nous savons que même si l'on tombe, est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas? Est-ce qu'on se détourne et qu'on ne revient pas? Quelqu'un qui est élu, il revient. Un élu peut tomber, mais il ne peut pas être perdu. Comprenez-vous? Mais si nous tombons, eh bien, évidemment, nous connaissons aussi la discipline du Seigneur. Mais quand nous sommes tombés et que nous voyons le regard du Seigneur, ce regard nous empêche de nous endurcir. Quelqu'un qui endurcit son cœur quand il a péché, eh bien, je doute fort qu'il ait été réellement sauvé une fois. Mais quand on a été avec le Seigneur, quand ce n'est pas une œuvre émotionnelle qui s'est faite dans notre cœur, mais une œuvre profonde, l'œuvre du Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, eh bien, on peut encore tomber parce qu'on est des êtres charnels, mais le regard du Seigneur nous bouleverse et nous amène à la repentance. Nous amène à la repentance. Alors, vous comprenez l'enchaînement ici de ce verset 2 qui nous donne vraiment un message trinitaire. Alors, la question 3, c'était qui est l'auteur de notre élection au salut? C'est Dieu. C'est le Père. Et il ne varie pas, il ne change pas. Ses décisions sont irrévocables. Il ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Vous avez appris ça au catéchisme autrefois. Alors, où trouvons-nous le témoignage infaillible de notre élection? Bien, on trouve ce témoignage infaillible de notre élection dans la sanctification qu'opère le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Avant, nous étions créatures de Dieu. Mais maintenant, il y a une relation vivante avec Dieu et nous sommes enfants de Dieu. Voyez de quel amour le Père vous a fait don, dit l'apôtre Jean, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il ajoute, et nous le sommes. Et nous le sommes. C'est pour ça que ce matin, j'insistais sur ce fait, que c'était l'Esprit du Père qui parlait en nous. C'est l'Esprit du Père qui parle en vous. Prenez conscience que vous avez reçu l'Esprit de votre Père. C'est tellement beau ça, l'Esprit de votre Père. Non pas seulement l'Esprit du Père, comme je le disais tout à l'heure, hein, mais l'Esprit de votre Père. Parce que c'est vrai qu'il est votre Père, parce que c'est vrai que vous êtes enfant de Dieu. Repoussez Satan quand il vient vous dire « Oh, mais écoute, quand on voit ce que tu es, dites-lui, il me connaît mieux que toi, Satan. Arrière de moi, Satan. » Et vous dites non à Satan et à toutes ses suggestions. C'est un combat, mais c'est ça le combat de la foi, où je prends Dieu au mot et je le crois à toute heure. Alors, que la grâce, vous voyez, et la paix vous soit multipliée. La grâce, cette grâce qui nous a sauvés, cette grâce qui nous enseigne dans le chemin. On n'est plus enseigné par la loi, mais on est enseigné par la grâce. Maintenant que nous sommes sauvés par la grâce, vous êtes sauvés par la grâce. Mais la grâce nous enseigne comment nous devons vivre dans ce présent siècle, dans la sobriété quant à nous-mêmes, dans la piété quant à Dieu, et puis dans la justice quant à notre relation avec notre prochain. Et puis, cette grâce nous fortifie. Fortifie-toi dans la grâce. Cette grâce nous fait croître. Croissez dans la grâce. C'est ça maintenant notre terrain. C'est la grâce. Nous sommes dans la grâce. Vous êtes en état de grâce. Pour employer une expression qui est bien connue. Ayant été justifié par le moyen de la foi, vous avez la paix avec Dieu et vous avez trouvé accès à cette grâce dans laquelle vous demeurez ferme. Restez dans la grâce. Ne vous laissez pas troubler. Vous êtes les objets de la grâce. Alors jouissez de cette grâce. Rendez grâce au Seigneur pour son amour. Entrez dans la louange. Et cette grâce, elle est parfaitement suffisante. Paul en a fait l'expérience. C'est pas la santé qui me donne la paix. C'est la grâce de Dieu. On peut être dans la douleur, on peut être dans l'affliction, mais j'ai cette grâce. Et rien ne peut me priver de cette grâce. De sa plénitude, nous recevons grâce sur grâce. Des grâces entassées, des grâces multipliées. Et vous êtes venu ici dans cette retraite pour y recevoir la grâce tout à fait particulière dont vous aviez besoin aujourd'hui. Prenez la grâce dont vous avez besoin aujourd'hui. À chaque jour, je suis à peine. Demain, il y aura une nouvelle grâce. Et puis, nous avons encore besoin de la paix. Parce que le diable fait tout pour nous troubler. C'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est tous les jours que nous avons besoin de la paix. Et Jésus l'a bien compris quand il dit à ses disciples la nuit où il fut livré, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Et il veut que nous restions dans cette paix de Dieu. Moi je ne vous donne pas, disait Jésus, comme le monde donne. Le monde dira bientôt paix, paix, et sur ses Gorbatchev va venir chez Reagan, et puis ils vont signer leur traité contre la guerre des étoiles, et alors maintenant les gens commenceront à soupirer. Et dire paix, paix. Mais c'est justement quand ils diront paix, paix et sûreté, quand il n'y aura plus la menace de la Russie contre les États-Unis, parce que la guerre des étoiles, c'est pas un pays contre un autre, c'est l'archange Michel contre Satan. C'est ça la guerre des étoiles. C'est l'archange Michel contre Satan, et c'est le monde entier qui va connaître la guerre des étoiles. Quand Satan sera précipité sur la Terre, et puis il n'y a pas de bouclier spatial. Parce qu'il n'y a plus de foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il n'y a rien qui pourra empêcher la guerre des étoiles. Et qu'est-ce que c'est que la guerre des étoiles? Ce n'est pas les idées de Reagan et de Gorbatchev. La guerre des étoiles, c'est cette guerre qui va être livrée bientôt quand Satan sera précipité sur la terre et qu'il agira parce qu'il aura peu de temps et qu'il manifestera l'homme de péché, l'Antichrist. Mais les croyants seront où? Enlevés au ciel, avant. Et c'est ça notre bienheureuse espérance. Et vous allez voir que l'apôtre Pierre en parle de cette bienheureuse espérance. Nous attendons quoi? La colère qui vient? Nous attendons Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Oui, la colère, elle vient, mais elle vient sur un monde impie, sur un monde qui ne veut pas de Dieu, sur un monde qui refuse de croire au Seigneur Jésus. Alors, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils croiront au mensonge. Mais ceux qui croient au Seigneur Jésus, eh bien, ils savent que leur part, c'est d'être avec lui, enlevé auprès de lui et de son trône. Eh bien, que cela nous réconforte. Alors, nous restons dans la paix. Pas parce que le monde dit paix, paix, hein, mais parce que le Seigneur nous a donné sa paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Laissez-vous envahir par la paix de Dieu. Il est dit que la paix viendra à vous comme un fleuve. Mais vous avez mis toutes sortes de digues. Vous ne voulez pas vous laisser inonder par la paix de Dieu. Pas seulement chanter la paix de Dieu, mais vous laisser inonder par sa paix. Et que cette paix descende jusqu'au tréfonds de votre être. Voilà les vœux de l'apôtre Pierre. C'est beau, hein? C'est vraiment un message trinitaire, ça, hein? Il y a le Père, il y a le Fils, et puis il y a le Saint-Esprit. Et les trois personnes ont affaire avec nous. C'est merveilleux. Ça nous pousse à l'adoration. On voudrait adorer, on voudrait le bénir, on voudrait chanter. Il nous remplit. Soyez remplis de l'Esprit. Alors, vous voyez, ce verset 3, « Béni soit Dieu, le Père. » Là, je prends la version habituelle. Hein. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde... » Alors, ce Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est pour vous maintenant? Il est votre Père. Hein. Et quand vous dites « le Père de notre Seigneur Jésus-Christ », vous voyez tout ce que le Père a été pour Jésus-Christ. Et vous comprenez immédiatement que tout ce qu'il a été pour Jésus-Christ, il veut l'être pour vous. C'est ça, manger la parole. Tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées. Elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. C'est ça, des hommes qui vivaient de la parole, qui jouissaient de la parole. Ça ne passait pas, cette parole, comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça nous arrive souvent, hein. Mais il faut nous laisser imprégner, il faut être des éponges en quelque sorte. Nous laisser imbiber par cette parole. Bénis-toi Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Mais c'est plus un inconnu ce Dieu, Père de Jésus-Christ. Nous savons qui est Jésus-Christ, nous savons comment Dieu a agi pour son Fils. Qui selon sa grande miséricorde, vous pourriez méditer là, c'est chaque mot qui mériterait une heure de méditation. La grande miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que c'est sa miséricorde? C'est sa bonté, pour traduire comme le français courant, n'est-ce pas? Parce que les gens ne savent pas bien ce que c'est que la miséricorde. Mais la miséricorde, c'est la grâce qui est faite à qui? À un misérable. Il faut bien comprendre ça. Hein? La miséricorde, elle n'est que pour les misérables. Tu te sens misérable? Eh bien, la miséricorde est pour... Quand on reconnaît sa misère, la miséricorde de Dieu vient à nous. Mais il faut reconnaître sa misère. Mais la plupart du temps, nous sommes tellement orgueilleux que nous ne voulons pas reconnaître notre misère. Alors nous ne connaissons rien de la miséricorde de Dieu. Pierre, lui, il savait ce que c'était la miséricorde de Dieu. Il l'avait expérimenté. Vous comprenez que quelquefois des chutes, je ne vous encourage pas à chuter, mais nous rendent sensibles au pardon et à la grâce. Bien oui, Pierre est capable maintenant de comprendre et de devenir miséricordieux. Avant, il n'était pas miséricordieux. Il jugeait tout le monde. Mais maintenant, il est devenu miséricordieux. Et il peut parler de la grande miséricorde de Dieu, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Si nous sommes nés de nouveau, c'est à cause de ça. Miséricorde. Il a eu pitié de nous. Et alors maintenant, nous sommes donc régénérés, c'est-à-dire nés une nouvelle fois. Nous sommes renés. Vous savez que le mot rené, hein, ça veut dire nés de nouveau. Les gens qui s'appellent René, ben, j'espère bien qu'ils sont nés de nouveau. Parce que sans ça, ils portent un nom qui n'est pas authentique. Alors, nous avons été régénérés. Mais pourquoi est-ce que nous avons été régénérés? Pour une espérance. Et vous voyez, on aurait à méditer sur la grande miséricorde de Dieu, puis on aurait à méditer sur l'espérance vivante. Parce qu'il y a des espérances qui sont mortes. Mais notre espérance, elle est vivante. S'il nous a fait renaître, c'est en vue d'une espérance. Et quelle est cette espérance? Sur quoi repose-t-elle, cette espérance? L'assurance de l'espérance. C'est sur la résurrection de qui? De Jésus-Christ. Nous espérons en quelqu'un. Nous espérons en une personne qui était morte et qui a été ressuscitée. Donc, notre espérance a une base certaine et véritable. Et c'est une espérance qui est vivante. Parce que la personne qui est l'objet de notre espérance est vivante. Nous pourrions méditer des heures là-dessus. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Vous croyez? Alors votre espérance, elle est certaine, elle est sûre. Vous pourriez prendre tous les mots qui qualifient l'espérance, mais c'est une espérance vivante. Et vous remarquerez que plusieurs fois, quand il est parlé du Seigneur, lui nous donne une espérance vivante. Mais lui-même, il est un chemin vivant. Nous suivons un chemin vivant. Il est le pain vivant, le pain de vie, hein, le pain vivant. Il est l'eau de la vie. Tout est vie dans la personne du Seigneur. Alors, l'espérance que nous avons en lui est une espérance vivante. Et maintenant, quel est cet héritage pour vous qui nous est conservé dans les cieux et qui ne peut ni se corrompre, ni se soulier, ni se flétrir? Qu'est-ce que vous pensez que c'est cet héritage? Des corps, oui, nos corps de gloire. On va revêtir un corps de gloire. Et ce corps, il nous est réservé où? 2 Corinthiens, chapitre 5. C'est quelque chose qui nous fait tressaillir, parce que nous sommes en train de vieillir, hein, moi le premier. Alors, c'est pas drôle de vieillir. C'est pas drôle de se flétrir, de se ratatiner. Mais il y a quelque chose. On a un héritage qui ne peut se corrompre. Nous allons vers quoi, nous? Dans la corruption, hein? Nos corps, quand ils sont jetés dans la poussière, c'est dans la corruption qu'ils s'en vont. Et puis la souillure, c'est la flétrissure. On se flétrit. Mais nous avons un héritage qui ne peut pas se flétrir. Alors, c'est comparé dans le chapitre 5 de la deuxième aux Corinthiens à un édifice. Nous savons en effet que si cette tente, parce que notre corps maintenant de chair est comparé à une tente, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main, mais éternelle dans les cieux. Voilà, nous avons un héritage. Alors, cet héritage, il est conservé par Dieu dans les cieux, et puis nous, sur la terre, on est gardé pour cet héritage. C'est quelque chose de merveilleux. On est gardé pour cet héritage. Et on y est gardé par la foi. Parce que c'est notre foi qui croit cela. Gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Qu'est-ce que c'est ce salut qui sera révélé dans les derniers temps? C'est le retour de Jésus. Et alors, j'ai posé la question, les derniers temps, quand est-ce qu'ils ont commencé? Les derniers temps ont commencé par la venue du Jésus-Christ. C'est le dernier mot de Dieu à l'humanité. Il a envoyé d'abord les prophètes, il a parlé plusieurs fois, mais en ces temps qui sont les derniers, Hébreux chapitre 1, il nous a parlé dans le 6. Voilà quand commencent les derniers temps, par la venue du Fils. Et il est dit qu'il envoie le Fils le dernier, dans l'évangile de Marc. Il est dit qu'il l'a envoyé le dernier. Jésus-Christ est le dernier mot de Dieu à l'humanité. C'est pourquoi la dernière heure, quand Jean l'apôtre en parle, il dit que c'est déjà la dernière heure. Alors, si c'était déjà la dernière heure au temps de l'apôtre Jean, quelle heure est-il au cadran de l'histoire? Ben, c'est peut-être les dernières secondes. Hein. Alors voilà, les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et puis, alors, dans les derniers temps sera révélé, parce que les derniers temps, ça couvre tout, depuis la venue du Seigneur, jusqu'à son retour. Alors, nous ne fixons pas la date de son retour, mais nous savons que c'est pour bientôt. Est-ce que ça vous réjouit? C'est là ce qui fait votre joie. Oui, j'ai dit, est-ce que ça vous réjouit? Eh bien, je veux croire que vous suivez. C'est là ce qui fait votre joie. Quelle est notre joie? Jésus revient. Puis il y en a qui n'aiment pas du tout cette doctrine. Ils n'aiment pas qu'on parle du retour du Seigneur. Ça les gêne. On est tellement bien ici-bas. Puis on a encore tellement de projets. Au moins que je me marie avant. Parce que j'ai vu qu'au ciel, on ne se marie pas. Donc ce sera bien mieux que tout cela. C'est là ce qui fait votre joie. Mais quoique maintenant, puisqu'il le faut, c'est merveilleux hein, comme Pierre parle là. Ça peut être nécessaire que nous soyons attristés pour combien de temps? Pour un peu de temps. Alors là, vous pourriez méditer aussi sur toutes les fois que vous trouvez dans les évangiles, quand Jésus en parle, un peu de temps. Que vous lisiez aussi dans les Hébreux. Car encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Alors ne rejetez pas loin votre confiance, il semble que c'est si long. Mais c'est seulement un peu de temps. Notre légère tribulation d'un moment opère pour nous en mesure surabondante un poids éternel de gloire. C'est toujours un peu de temps. Mais c'est quelquefois nécessaire parce que le Seigneur aime tellement voir notre foi grandir qu'il estime tellement notre foi qu'il la met à l'épreuve. Il peut éprouver notre foi. Et Job, justement, a été un homme dont la foi a été éprouvée. Et Dieu est allé très loin avec Job, mais on peut pas aller, il ne peut pas aller toujours très loin avec nous, parce qu'il n'en voit pas au-delà de nos forces. Mais plus un homme est pieux, plus un être est pieux, plus il doit peut-être s'attendre à être éprouvé. Alors vous direz, ben moi alors, non, je peux être pieux, hein. Ça me suffit, hein. Être un petit chrétien qui ira au ciel un jour. Hein. Mais moi je ne veux pas m'attirer des épreuves, parce que justement, Abraham était un homme pieux. Hein. Et alors Dieu lui a envoyé des épreuves qu'il n'a pas pu envoyer à Lot. Parce que Lot, tout ce qu'il pouvait supporter, c'est qu'on le tire. Puis il a même laissé sa femme. Alors, hein. Pourtant, il avait la même foi qu'Abraham, et comme doctrine. Hein. Mais Dieu n'a pas éprouvé Lot comme il a éprouvé Abraham. Mais Abraham, Dieu a pu faire quelque chose avec lui. Et c'est le père de tous les croyants. Ça, c'est quelque chose. Et quand vous pensez à Joseph, hein, relisez la vie de Joseph. Elle m'a imprégné ces derniers temps, cette vie de Joseph. Il a dû être éprouvé, mais en vue de quoi? qu'est-ce que Dieu lui réservait à ce Joseph? La première place après le Pharaon. Mais pour occuper la première place après le Pharaon et devenir le gouverneur de tout un pays de l'Égypte, il fallait qu'il passe par des épreuves. C'était nécessaire. Parce que Joseph était quand même un petit peu orgueilleux quand il racontait ses songes à ses frères au sujet, vous allez tous vous prosterner devant moi, hein. Vous comprenez qu'il existait la jalousie de ses frères. Alors il a fallu qu'il soit humilié. Acceptez les humiliations, mes bien-aimés, et que moi aussi je les accepte. Acceptons qu'on soit humilié. C'est peut-être nécessaire. Mais c'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, c'est pas parce que Dieu est contre nous. Il n'est jamais contre vous. Il est toujours pour vous. Hein. Vous y croyez? Si Dieu est pour vous, qui sera contre nous? Est-ce que vous croyez que Dieu est pour vous? Oui, puisqu'il vous a prédestiné. Il est donc pour vous. Alors vous avez Dieu de votre côté. Pourquoi ça n'irait pas? Parce que nous manquons de foi. Eh bien, Dieu va éprouver notre foi. Elle est plus précieuse que l'or qui périt, et que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Et elle aura pour résultat, notre épreuve, l'honneur, la louange, l'honneur et la gloire. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Eh bien, les épreuves de Joseph ont eu pour résultat l'honneur, la louange et la gloire. Et pourtant, il a dû être mis en prison, il a subi toutes sortes d'injustices, il aurait pu penser que Dieu l'avait abandonné, mais ce n'était pas le cas. Alors, vous voyez que de nouveau, il est parlé de Jésus-Christ qui va apparaître. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, c'est donc qu'il va revenir. Et quand Jésus reviendra, alors, on ne regrettera pas nos épreuves, parce que tout à coup nous verrons ce qu'elles ont produit. Il sera admiré dans les saints et glorifié en tous ceux qui auront cru. Et alors, déjà, même si nous sommes éprouvés, nous avons une joie qui n'est pas de ce monde, une joie déjà céleste, mais qui nous vient du Seigneur Jésus. Alors, Pierre dit, ce Jésus qui va apparaître, qu'est-ce qui vous caractérise? Vous l'aimez. C'est vrai? Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, vous l'aimez. Je vous ai dit hier soir que Jésus disait, si quelqu'un m'aime, et j'ai cru que vous l'aimez. Vous l'aimez, et ça nous est redit, vous l'aimez, sans l'avoir vu. C'est vrai, on ne l'a pas vu encore. Mais vous croyez en lui. Et c'est vrai, notre foi est solide. Nous croyons en lui. Sans le voir encore. Je n'ai pas besoin de le voir pour croire. Et je me réjouis. Est-ce que notre joie est ineffable et glorieuse? Voilà ce que ça devrait être. Hein. Ça devrait être une joie ineffable et glorieuse. Ça nous dépasse. Et c'est cela, c'est ce dépassement qui nous amène à quoi? À ce qu'on a tant de peine à avoir dans nos cultes, l'adoration. S'il y avait dans nos cœurs cette joie ineffable et glorieuse, qu'est-ce qu'il y aurait sur nos lèvres? On n'aurait pas besoin du rythme des cantiques pour louer le Seigneur. Parce que maintenant, il faut du rythme hein, pour que la fusée s'en aille. Qui se désintègre, hélas. Alors, nous avons une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez. Est-ce que vous êtes sûr de l'obtenir? Oui, mais vous voyez, c'est des certitudes avec l'Écriture. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. On est sauvé en espérance. Quand vous pensez, mais si j'avais le salut, je sentirais davantage ceci et cela. Mais c'est pas vrai. Parce que une espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on espère, c'est ce qu'on attend. Alors, c'est normal que vous ayez des luttes, des combats. Comprenez-vous? Ne doutez pas de votre salut parce que vous avez des moments difficiles. Mais vous allez recevoir le salut de vous. Nous attendons Jésus qui viendra du ciel et qui transformera le corps de notre misère, de notre abaissement, en la conformité de son corps et de gloire. Et nous recevrons le salut comme prix de notre foi. La foi, elle a un prix. Et quel est ce prix? C'est le salut des âmes. Alors, le salut, il a été accompli derrière vous. C'est dans le passé que Jésus vous a sauvé. C'est un fait qui est derrière vous et qui ne peut pas être défait. Mais la possession intégrale du salut, elle est devant vous. L'œuvre qui vous sauve a été accomplie. Tout est accompli. Mais la possession totale du salut, nous l'avons devant nous. Et la marche jusqu'à la possession du salut, c'est une marche par la foi. Et non pas par la vue. Et le prix de notre foi, il y a un prix à notre course, c'est le salut des âmes. Mais il est assuré, il est gardé pour nous. Et maintenant, vous avez ce qui est dit sur les prophètes. Les prophètes, c'était donc les prophètes de l'Ancien Testament, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Donc, dans l'Ancien Testament, la grâce qui nous était réservée était déjà annoncée. Là, vous avez toutes les prophéties concernant même la personne du Seigneur. Sa première venue était annoncée. Et puis, son retour, puisqu'il y a 1500 textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent du retour du Seigneur. Alors, tout cela était annoncé, et même sa première venue dans la faiblesse comme l'agneau de Dieu, eh bien, elle est annoncée d'une façon si précise qu'on a pu dire qu'on pourrait écrire une vie de Jésus simplement avec l'Ancien Testament. Sans avoir recours au Nouveau Testament, mais on pourrait écrire une vie de Jésus exacte avec les versets de l'Ancien Testament. Alors, les prophètes ont eu ces révélations, mais quand ils ont vu ce que c'était que ce salut, alors ce salut a fait l'objet de leurs recherches, comme nous aussi, nous faisons du salut qui vient, du salut qui est devant nous, l'objet de nos recherches, de nos investigations. Ça, c'est important de savoir ces choses. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux. Les prophètes, qu'est-ce qui les caractérisait? Qu'est-ce qu'ils avaient en eux? L'Esprit du Christ. Notez bien cela, hein, parce que ça va nous aider à comprendre d'autres versets qui sont beaucoup plus difficiles dans l'Épître de Pierre. Hein. Il y a des versets très difficiles dans l'Épître de Pierre. Eh bien, l'Esprit du Christ était donc dans les prophètes. Ce n'est pas leur imagination qui travaillait. Ils recevaient une révélation. Puis ils se sont dit, est-ce que j'y participerai? Est-ce que moi je connaîtrai ce salut? Et ce salut, c'était la venue de Jésus. Le salut, c'était Jésus. Jacob l'avait attendu. Et sur son lit de mort, il dit, j'ai attendu ton salut. Et on pourrait traduire, j'ai attendu ton Jésus. Parce que salut et Jésus, c'est le même nom. J'ai attendu ton Jésus. Jacob a vécu dans l'attente du Messie, déjà. Il a attendu Jésus. J'ai attendu ton salut. Mais voilà, ce n'était pas encore pour lui, cela. Alors, les prophètes ont compris que ce n'était pas pour eux, pour eux-mêmes, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Ils n'ont pas dit, oh, ben, puisque ce n'est pas pour nous, ça ne nous intéresse pas. Au contraire, ils ont écrit ce qu'ils avaient reçu pour que nous, un jour, ayant reçu le salut, nous puissions voir que c'était déjà préparé pour nous. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, voilà l'intérêt que nous avons de lire l'Ancien Testament. Les prophètes ont été les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncé, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Alors vous voyez comment Paul prêchait, hein. Il avait prêché l'Évangile par quelle puissance? Par le Saint-Esprit. Vous avez ça dans plusieurs épîtres. Hein. Et vous voyez que à Athènes, par exemple, dans les Actes au chapitre 17, il a cru employer toutes sortes d'arguments intellectuels, toute une sagesse humaine, et ça a été l'échec. Et il s'en est tellement souvenu qu'il a dit maintenant que c'est fini, je n'apporterai plus que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Fini de citer des auteurs grecs, etc. Or, aujourd'hui, vous voyez un tas de prédicateur qui aime à montrer leur érudition, leur grande connaissance en citant toute espèce d'auteur. C'est à côté. Parce que ça nous fait penser, oui, ils ont étudié, ils ont des connaissances. Mais ce n'est pas ça l'autorité. L'autorité d'un homme, de Dieu, elle ne vient pas de la sagesse de la chair. Elle vient de la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut. Et c'est cette sagesse d'en haut que nous avons besoin de recevoir. Et cette sagesse d'en haut, on ne la reçoit pas dans les écoles de ce monde, on la reçoit sur nos genoux, sur notre cabinet. Et vous pouvez la recevoir, cette sagesse d'en haut. Il suffit de la demander. Mais de la demander avec foi. Et c'est cette vision que nous avons de donner à la base cette connaissance d'en haut. Parce que maintenant, on veut, comme nous l'avons dit souvent, on ne veut plus former que des leaders, des chefs dans la chrétienté. On nous a dit, je ne sais pas si c'est pour nous consoler de tous ceux qui n'ont pas pu venir à cette retraite, parce qu'il y a eu bien des gens qui s'étaient inscrits, qui ne sont pas venus. Alors on nous a dit, et j'espère ne pas trop me tromper, que dans la semaine, il y avait un autre groupe. Combien devait-il être ? Oui, alors, 12 moniteurs et 9 participants. Vous voyez, c'est les leaders. Hein? C'était une rencontre pour leaders, bon. Vous voyez, alors moi je voudrais que nous comprenions que notre but dans ces retraites, c'est de donner une connaissance à la base aux gens les plus simples qui n'ont peut-être pas les possibilités non plus de mettre beaucoup de temps pour des études, et bien qu'au moins dans ces journées, nous sentions que le Seigneur veut nous donner individuellement une connaissance biblique. Et qui va vous faire grandir, croître dans la parole, comme nous allons le voir cet après-midi. Et voyez-vous, il est dit que les anges eux-mêmes sont intéressés par le salut des hommes. Et ils sont des esprits administrateurs employés envers ceux qui doivent hériter du salut. Les anges sont intéressés, et nous ne serions pas intéressés. Les anges ont été intéressés à notre salut. Ils désirent comprendre, connaître cet amour que Dieu nous a témoigné. Parce qu'eux ne sont pas des êtres tombés, mais nous sommes des êtres tombés. Et les anges sont émerveillés quand ils voient l'amour que Dieu a pour ces créatures déchues, mais qu'il a régénérées. Ils ont, les anges, ils éclataient de joie quand Dieu créait le monde, quand ils ont vu les merveilles de la création, ils louaient le Seigneur. Mais quand ils voient une âme perdue se convertir, qu'est-ce qu'ils font, les anges? C'est Jésus qui l'a dit. Il y a de la joie dans le ciel, devant les anges de Dieu. Mais est-ce qu'on y croit encore? Et est-ce qu'on croit encore que les anges observent la vie de l'Église et la conduite des sœurs dans l'Église? N'est-ce pas? Tout cela, il faut revenir à ces vérités. Et alors, vous voyez la place des anges. Surtout quand vous pensez à la guerre des étoiles. Verset 13. Alors, c'est pourquoi maintenant, vous savez où sont vos reins? Qu'est-ce que c'est la ceinture? C'est la ceinture de la vérité. Eh bien, qu'on l'ait aussi dans notre intelligence. Il faut avoir une intelligence qui a des reins solides. Parce que vous savez, l'intelligence aujourd'hui, c'est une folie. Eh bien, que notre entendement, notre intelligence, connaissent cette force qui se manifeste dans les reins. Alors, soyez sobre. Il n'y a pas besoin d'explication, là. Hein. Et ayez une petite espérance. Une entière. Ça veut dire quelque chose de total. Avec le Seigneur, c'est toujours total. Il n'y a pas de demi-mesure. Ayez une entière espérance. N'espérez pas petitement. Ayez une entière espérance. Dans la grâce. Vous voyez que c'est pas ayez une entière espérance dans vos œuvres, dans votre piété, ayez une entière espérance dans la grâce. Croyez-y à la grâce qui vous sera apportée. Qu'est-ce qui va nous être apporté? C'est la grâce, c'est pas le jugement. Le chrétien, il est passé de la mort à la vie et il ne vient pas en jugement. Alors, qu'est-ce qu'il attend? La grâce. Et après la grâce, ce sera la gloire. Il donne la grâce et la gloire. Il n'y a pas seulement la grâce, mais il y aura la gloire. Quand Jésus-Christ apparaîtra, voilà de nouveau une autre affirmation concernant son retour, comme nous l'avons vu déjà au verset 7. Le Seigneur apparaîtra. Alors, verset 14. Comme des enfants obéissants. Alors, bien sûr, puisque on a été prédestinés pour obéir. Alors, puisque nous appelons Dieu notre Père, comme des enfants obéissants, c'est l'obéissance qui doit nous caractériser, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Il y a dans la vie d'un vrai chrétien un autrefois et un maintenant. Comprenez-vous? Il doit y avoir une séparation. Autrefois, bien sûr, nous faisions des bêtises. Nous vivions dans les convoitises de ce monde. On pourrait parler beaucoup sur toutes les espèces de convoitises que nous trouvons, mais nous en avions autrefois des convoitises. Vous les aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Même avec tous vos titres, vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, est-ce que vous croyez qu'il est saint? Quand on pense qu'il se dit dans les églises journellement, saint, 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 et l'Éternel des armées. Bon. Eh bien, il est saint. Qu'est-ce que c'est? Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Mais cela découle de votre nouvelle nature. Puisque votre Père est saint, vous avez maintenant la nature de qui? Du Père. Il nous a rendus participants à la nature divine, dira Pierre dans sa seconde épître. Alors soyez saints dans toute votre conduite. Et vous verrez que Pierre insiste beaucoup sur la conduite. Parce que le monde, qu'est-ce qu'il voit? Notre conduite. Nos paroles, hein, il n'en fait pas grand cas, mais la conduite, il l'observe. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, c'est ça, hein, vous dites notre Père, quand on pense qu'on a fait de la prière dominicale, hein, notre Père qui est aux yeux, que ton nom soit sanctifié, une redite, une pourriture, alors que si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes toujours tremblant? Non. Mais conduisez-vous avec crainte. Quelle est cette crainte? La crainte de lui, de faire par contre l'aime. Quand vous aimez faire plaisir à quelqu'un. Eh bien, si vous aimez le Seigneur, si vous aimez votre Père des cieux, vous vous conduirez avec crainte. Pendant quel temps? Le temps de votre séjour ici-bas. J'aime beaucoup cette expression. Est-ce que vous allez y demeurer toujours sur cette terre? Non, nous attendons pas la mort, nous attendons Jésus. Mais même si nous devions mourir, nous savons qu'en tout cas, il n'y a pas d'espoir pour nous de demeurer toujours sur la terre. C'est pour ça que nous devrions nous occuper davantage des choses d'en haut. Pendant le temps de notre séjour sur la terre, qu'est-ce qui me reste, moi, à vivre sur la terre? Je n'en sais rien. Mais je voudrais que pendant le temps qui me reste à vivre, que je glorifie. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Nous avions une religion, bien sûr, qu'on avait hérité de nos pères. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle nous donnait, cette religion? Quelle qu'elle soit. Rien. C'était la religion de la loi, peut-être, du tu dois, tu ne dois pas. C'était de la morale. Mais maintenant, je sais que j'ai été racheté de tout cela par le sang précieux de Jésus. C'est une personne qui est morte pour moi. Je vis parce qu'un autre est mort pour moi, mais ça change complètement une vie. Et ce Christ, c'était l'agneau sans défaut et sans tache, qui était prédestiné dès avant la fondation du monde. Dès avant la fondation du monde, le moyen de notre salut était prévu. Dieu nous avait prédestinés dès avant la fondation du monde, mais aussi dès avant la fondation du monde, tout était prévu pour que les pensées de Dieu se trouve pleinement accompli. Alors, il a été manifesté à la fin des temps. Alors, vous voyez bien que la fin des temps commence avec la manifestation de Jésus. À cause de vous. Donc, nous sommes concernés. Est-ce que vous pouvez dire à cause de nous? Par lui, vous croyez en Dieu. Donc, par Jésus, nous croyons en Dieu. Qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur qui? Sur Dieu. Voilà sur quoi repose notre foi et notre espérance. Quand on nous demande, mais sur quoi repose votre espérance? Sur Dieu lui-même. Sur des faits historiques. Jésus a été ressuscité. Et vous voyez, là encore, il est souligné cette résurrection. Alors, verset 22. Ayant purifié vos âmes. Comment est-ce qu'on purifie son âme? En obéissant. C'est le sang qui nous purifie, mais maintenant, notre part à nous, c'est l'obéissance. Mais c'est une obéissance qui n'est pas pénible. Vous voyez le mot obéissance qui revient plusieurs fois dans cette épître. Ayant purifié nos âmes par l'obéissance à la vérité. Et la vérité, c'est qui? L'obéissance à la vérité, c'est l'obéissance à qui? À la parole. Ta parole est la vérité, mais qu'est-ce qui est la vérité aussi? Alors, c'est pas notre imagination qui est la vérité. Nous n'avons pas chacun notre vérité. La vérité, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus de notre imagination, c'est le Jésus de la révélation. C'est le Jésus de la parole. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont un Jésus. Jésus mis à toutes les sauces. On a un Jésus. Mais il y a un autre Jésus. Le Jésus qui est la vérité, c'est le Christ de la parole. Alors, ayant purifié nos âmes par l'obéissance à la vérité, l'obéissance à la vérité, c'est l'obéissance au Christ, à quelqu'un, pour avoir un amour fraternel sincère. Comment voulez-vous avoir de l'amour pour vos frères? Par l'obéissance à la vérité. Alors, aimez-vous froidement. Vous savez, je vous aime. Aimez-vous ardemment. Il ne faut pas avoir peur de montrer son amour. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Avec la moitié de votre cœur. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Pourquoi est-ce qu'on a toujours peur? Comme les gens seraient plus heureux s'ils se sentaient aimés. Parce qu'on aime de tout notre cœur. Puisque vous avez été régénérés, si nous étions irrégénérés, on ne pourrait pas aimer de tout notre cœur, parce qu'on aimerait mal. Mais si on est régénéré, on aimera de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, ce n'est pas un amour qui va se corrompre, mais par une semence incorruptible. Et quelle est cette semence? C'est la vivante et permanente parole de Dieu. Et qui est notre mère spirituelle, en quelque sorte? C'est la parole. Qui est notre père spirituel? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la parole sont les parents de l'homme nouveau. Le péché et la chair sont les parents du vieil homme. Le péché et la chair, eh bien, ont donné le vieil homme, cette ancienne manière de vivre que nous avions. Tandis que maintenant, l'action du Saint-Esprit et de la parole, celui qui est né d'eau, l'eau est le symbole de la parole, celui qui est né d'eau et d'esprit, eh bien maintenant, il est régénéré. Nous avons été régénérés par la vivante et permanente parole de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, c'est le texte des Aïe 40, l'herbe sèche, la fleur tombe, ça c'est vrai, pour nos vies terrestres. Mais, qu'est-ce qui demeure? La parole du Seigneur demeure éternellement élevée pour tous les temps. Et puis, c'est cette parole qui vous a été annoncée par quoi? Par l'Évangile. C'est plus par la loi de Moïse, mais c'est par l'Évangile. par la bonne nouvelle du salut. Voilà la parole que nous avons reçue. C'est cette parole qui nous a été annoncée. Alors, est-ce qu'il reste des questions que nous n'aurions pas, auxquelles nous n'aurions pas répondu? Est-ce que ça vous a servi, ce petit? C'est juste pour un peu vous donner une béquille. Alors, cet après-midi, donc, à 14h, nous allons nous retrouver ici, et vous aurez de nouveau une demi-heure dans vos chambres pour lire le chapitre 2. Dans le chapitre 1, nous aurons vu Jésus comme l'agneau. Et dans le chapitre 2, nous le verrons comme une pierre, hein, comme la pierre vivante, comme le rocher. Puis nous aurons les exhortations. Eh bien, après cette demi-heure dans vos chambres, vous rejoindrez vos groupes. Est-ce que tous ont pu rejoindre leur groupe ce matin? Donc vous n'aurez pas de difficulté maintenant de rejoindre vos groupes l'après-midi, après votre demi-heure dans un tête-à-tête avec le Seigneur, et vous partagez ce que le Seigneur vous a montré, ce qui vous a frappé, en dehors même de nos questions, ce n'est que des suggestions, ces questions. Et puis, nous nous retrouverons à 3h15 pour la collation et 3h30 pour le second exposé. Dieu notre Père, nous voulons te bénir, parce que c'est un véritable bain de ta parole que nous désirons prendre, parce que nous savons que cette parole nous purifie. Elle nous purifie dans nos pensées, elle nous purifie aussi dans nos paroles. Nous voudrions vraiment avoir une conduite qui soit digne de notre Père des cieux. Nous voulons prendre conscience que tu es vraiment notre Père, que c'est vrai de vrai que tu es le Père. Notre Père à nous, comme tu étais le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et que maintenant nous sommes habités par l'Esprit de notre Père. Oh, nous te louons et nous te bénissons, parce que maintenant tu vas encore nous donner la nourriture dont nos corps ont besoin, parce que tu prends soin de nous d'une manière merveilleuse. Donne-nous des cœurs reconnaissants pour tous ces bienfaits, et garde-nous dans la paix et la joie du Christ. Amen.